Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Dans un instant, le rappel des titres, un titre en or aujourd'hui, justement pour Clarisse Agbenenu, notre judokate. On va en parler avec vous, je l'espère, sur le 32-10 pour saluer cette performance incroyable. Ça y est, elle la tient, sa médaille d'or. Clarisse en judo. Bonjour Raymond.
Bonjour, bonjour.
Alors Raymond, cette médaille
extraordinaire. Ah. Extraordinaire, génial. Grandissime.
Vous pouvez rester avec nous ?
Bien sûr.
Très bien, on en reparle juste après, évidemment, les grands titres de 13h. On commence par cette médaille saluée comme il se doit à travers le monde et notamment au club à Champigny-sur-Marne où se trouve Julien Fautra qui a suivi la finale là-bas. Julien.
Ouais. À travers le monde et même, on dirait même que Champigny-sur-Marne est le centre du monde. En tout cas, c'est ce que vous me disiez à l'instant, Monsieur Sudre, Philippe Sudre, qui est le président du club de Champigny. Vous avez même deux médaillés, ce qui est quand même incroyable. Champigny, centre du monde. Comment vous l'avez vécu cette finale? Comment vous l'avez... Tout à l'heure, j'ai vu quelques petits... On sentait pendant la Marseillaise que vous avez les yeux un petit peu humides. Vous n'avez pas craqué. Vous l'avez dit, je n'ai pas craqué. Mais comment vous avez ressenti cette finale, cette Marseillaise, cette matinée avec Clarisse?
Bah, le ressenti, il était intense, quoi. C'est une finale olympique. Imaginons ce que ça veut dire dans la tête des sportifs que nous sommes, parce que nous sommes quand même judoka aussi. Et donc, je l'ai vécu par rapport à Clarisse qui attend tellement ça depuis 5 années que je ne pouvais pas imaginer qu'elle ne gagne pas. Et pourtant, le sport, c'est pas ça. C'est pas que ça. Mais tellement elle a travaillé, tellement d'efforts, etc., que j'étais effectivement dans un état presque second parce que je l'imaginais pas. Et à chaque fois qu'elle faisait un pas en avant, qu'elle reculait, etc., il y avait cette sensation de presque d'être à sa place et dire non. Mais elle est tellement forte, elle a tellement mené cette finale de main de maître, même si elle a été secouée un peu au début, qui nous a un peu chamboulé, très rapidement elle a repris le dessus, dès qu'elle posait ses mains pour arriver techniquement à la main à la fin, va être au Golden Score Ouazari qui l'a consacré. Quand on pense que Clarisse il y a 5 ans en finale elle perd cette finale sur la même personne en plus, donc quelle finale rêvée, la revanche.
Si vous y tenez autant, c'est parce que c'est une fille en or là aux deux sens du terme, c'est-à-dire que vous la voyez vous régulièrement au club, elle vient, moi j'ai vu tout à l'heure des mômes qui cavaient ses conseils, vous l'aimez vraiment Clarisse?
Oui, on l'aime et toutes nos athlètes, mais Clarisse elle a une attention particulière parce que c'est une jeune femme gentille, paisible, tranquille. J'utiliserai pas une expression du passé, mais elle représente c'est ce sentiment et d'un autre côté sur le tatami c'est une guerrière, une battante et qui ne laisse rien au hasard et dans sa préparation ça a été ça, une préparation de professionnelle au sens où elle s'est entourée d'une team, le club, la fédération, des personnes extérieures, etc. Elle a construit sa victoire. Elle était programmée pour cette victoire, c'était son dessein.
Vous avez vu dans ses yeux, vous saviez qu'elle allait gagner, vous les connaissez ses yeux.
Elle était très concentrée, très, comment dire, attentive, qu'elle allait gagner. On pensait, oui, parce que tout le monde, au vu des années qui viennent de s'écouler, comment ça pouvait lui échapper.
Ouais, c'est clair.
Après, comme je disais, ça reste du sport, c'est pas mathématique, on peut tomber, etc. Mais la probabilité pour Gaïane, elle était importante. Encore fallait-il le faire, et elle l'a fait.
Et puis il y a les mômes qui étaient là pendant tout son combat, qui étaient avec un drapeau français, qu'on chantait la Marseillaise. C'est ces mômes-là que vous allez maintenant emmener à une médaille olympique.
Alors, je pense que dans la tête de certains, ils doivent se dire, mais pourquoi pas moi, dans quelques années. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est champion olympique dans certaines disciplines à 13 ans, mais en judo, c'est pas le cas. Il faudra du temps et de l'apprentissage, et puis on va compter sur nos professeurs, parce que en France, le judo français avec ses 5600 clubs a des professeurs compétents, et ce sont entre guillemets les clubs les plus modestes qui forment les futurs champions. Nous, les grands clubs, dit-on, grands clubs, j'aime pas cette expression, on a une capacité à pouvoir accompagner différemment nos athlètes, mais les professeurs sont la base et ce sont eux qui font le travail.
Et les bénévoles qu'on voit vraiment tout autour de nous. Voilà, formidable super. Témoignage. Ouais. Ici, voilà, super ambiance et Champigny Centre du Monde. Hein, monsieur le Président, Champigny Centre du Monde.
Merci. Merci, monsieur Sudre. Merci à vous, Julien Fautra. Oui, après Amandine Bouchard, cette médaille d'or, cette fois pour Clarisse Agbenignou. On en parle avec vous sur le 32-10, 3-2-1-0. Puis attention, encore un espoir de médaille. Aujourd'hui, une 7e médaille, pourquoi pas tout à l'heure en taekwondo. On vise le bronze avec Athéa Lorrain, 19 ans, en moins de 67 kilos. Les autres titres de l'actualité aujourd'hui, face à une dégradation sanitaire brutale liée bien sûr à la Covid, la préfecture de Gironde a rendu aujourd'hui le port du masque obligatoire à Bordeaux et dans les zones touristiques tout autour des Sables-d'Olonne à la frontière espagnole. Ça entrera en vigueur dès demain matin et ce jusqu'au 31 août. Puis l'Union européenne qui a appelé aujourd'hui au rétablissement de la stabilité institutionnelle dans les meilleurs délais en Tunisie après la suspension des activités du Parlement et le limogeage hier à grand fracas du Premier ministre par le président Kais Saied. Les États-Unis enfin maintiennent les restrictions aux voyages internationaux. Peu importe qu'ils soient testés ou vaccinés, les frontières américaines restent fermées pour l'instant aux voyageurs internationaux. Décision de la Maison-Blanche. On parle du climat avec vous, on parle des Jeux Olympiques, on parle du port du masque dans les grandes villes de France, dans certaines grandes villes de France notamment. On a parlé de Nice, on était avec Franck Louvrier de La Baule. Aujourd'hui donc c'est Bordeaux et sa région. Venez témoigner si vous habitez ces régions concernées. 3210 3210.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
On retrouve Raymond qui est avec nous juste avant 13h parce que Raymond, on écoutait le témoignage de monsieur Sudre, hein, Philippe Sudre, le patron de Champigny, le responsable du dojo et de ses formidables judokas avec ses médailles qui tombent une par jour. C'est quoi? C'est l'encadrement, c'est les bénévoles, c'est la volonté, c'est l'image que aussi donnent ces champions, ce que reflète les Riner avec Benenou, cette puissance incroyable?
Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'est une belle image en fait que ces champions renvoient aux sportifs français et à tous les judokas. C'est vraiment, sa médaille est vraiment formidable. C'est un modèle de travail, hein. C'est un modèle d'abnégation. C'est une très belle personne.
C'est bien, Agbenignou, abnégation, ça va bien ensemble. Hein. J'aime bien démarrer par cette-là, vous avez raison. Et on disait tout à l'heure, c'est une formidable championne qui est Brigitte Dédier, qui était elle aussi trois fois championne du monde, cinq fois championne d'Europe. Être présent le jour J, quoi, ça c'est incroyable, parce que ça fait quand même 5 ans qu'elle attend ce combat, parce que le reste, elle a tout gagné.
Tout à fait, ça fait 5 ans, mais vous avez tout à fait raison, il faut être présent le jour J. Et ça reste du sport, c'est vrai, mais c'est un combat de judo. Et rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre, ce n'est pas possible. Et on peut toujours avoir une petite anicroche quelque part. Et là, elle a été au top, jamais inquiétée, toujours sereine, mais magnifique, magnifique. Très beau combat, géré de main de maître.
Oui, c'était long ce combat, en plus elle connaît tellement son adversaire, quoi. Elle a été battue au championnat du monde, et puis surtout, c'est elle qui l'avait battue en finale à Rio, quoi, il y a 5 ans.
Tout à fait, elle l'avait battue à Rio. On va pas dire inattendu parce que c'est quand même une grande championne elle aussi, hein. Mais c'était quand même la surprise à Rio et là c'était entre guillemets une revanche. Mais voilà, c'était un combat judo, c'était entre guillemets une revanche. Mais Clarisse elle a vraiment très bien mené sa barque et selon moi, je l'ai pas senti inquiétée.
Nos standardistes me donnent votre fiche à l'instant. J'avais pas eu le temps de la lire en entier, Raymond. Et je vois que vous êtes professeur de judo à Paris. Dites-moi, quand on rentre sur un tatami, comment ça se passe déjà? Ça, c'est très important parce que c'est toute l'éducation qui est là.
Ah oui, tout à fait. Le respect du tapis, le respect des lieux. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer dans mon club à mes élèves, à Paris, dans le 20e arrondissement, vraiment dans Paris même. Et on a besoin de ça. On a besoin de ce repère, le respect des lieux, le respect de son adversaire aussi. C'est très, très important.
Vous avez raison parce qu'on a vu l'image, hein, je vous interromps, pardonnez-moi, mais cette image m'a beaucoup marqué. Moi, franchement, j'ai eu des frissons parce que quand elle termine le combat, Clarisse, face à son adversaire qu'elle connaît par cœur, les deux, elles ne bougent plus. Il y a une accolade de championne qui est juste incroyable avant de tomber dans la démonstration en faisant un cœur avec ses doigts. Il y a ce moment, cette accolade, cette étreinte entre ces femmes si fortes.
Oui, mais j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, elle lui dit « Merci de m'avoir vraiment livré un si beau combat, quoi. Un vrai combat. Et sans cet adversaire-là, on n'aurait pas. Moi, j'ai vibré devant ma télé parce que voilà, il y avait une grande championne en face.
Mais tandis que moi, j'aurais dit chacun son tour. Hein. Mais... c'est la différence entre les champions et les amateurs. Quoi. J'avais bien fait pour toi. Cette fois-ci, c'est pour moi. Quoi. C'est un peu comme les Anglais au rugby, vous savez. Hein, good game. Sorry, good game. Ah, quelle belle image. J'en reviens. Je suis toujours dans l'émotion, franchement, depuis cette médaille. Pourtant, ça fait plus d'une heure. Tiens, avec vous, Raymond, on va recevoir Geoffrey qui nous appelle de Nice, qui a composé le 32-10, le 3-2-1-0. Vous avez la parole. Bonjour, Geoffrey.
Oui, bonjour.
Vous êtes prof, vous êtes coach, vous êtes...
Oui, c'est ça, je suis coach de sport.
Coach de sport. Et judo, ça fait partie de votre enseignement? Parce que coach de sport, c'est quoi? C'est aller marcher, courir, faire du vélo, faire des muscles?
Non, alors, je suis entraîneur dans le volleyball.
Dans le volleyball. Quelle image vous allez garder de Clarisse Agbenenou, cette championne qui arrive à dire « Je suis porte-drapeau et je viens chercher une médaille d'or et je l'obtiens
bah, » c'est un exemple que tous les sportifs doivent prendre. C'est, elle a porté ses responsabilités, elle a toujours été sereine. On n'a pas senti une once d'incertitude dans son combat. Et puis, elle va la chercher dans le Golden Course. Et, pour moi, c'est incroyable qu'on arrive à ce genre de niveau.
Oui, dans le temps additionnel, c'est vrai, avec une adversaire qu'elle connaît par cœur. On parlait de l'enseignement avec Raymond il y a un instant, l'importance dans l'éducation aujourd'hui d'avoir du judo, on devrait tous passer par ce genre de sport. Est-ce qu'il y a d'autres sports comme ça? Je pense que bon, les sports d'arts martiaux, oui, même le taekwondo, on espère une médaille tout à l'heure, il y a ce même respect. Est-ce qu'il y a des sports aussi puissants, j'allais dire, pour que, voilà, on ait une certaine discipline de vie?
Oui, totalement. C'est la discipline, les valeurs du sport... de manière générale, et puis notamment dans le judo où le respect est d'autant plus présent, donc c'est vraiment très important pour moi.
J'aime ce respect. Voilà, et ce ne sont pas des pyjamas, ce sont des kimonos hein, qu'on porte. Bon, je dis ça pour Greg parce qu'il me posait la question. Au niveau des ceintures, moi j'ai commencé par blanche, je crois que j'ai dû m'arrêter après. C'est quoi déjà après? C'est jaune, marron?
C'est blanche, jaune, ouais. Orange, verte, orange, bleu, ouais. Marron, noir.
D'accord, et noir après il y a les danes, c'est ça?
Après, il y a les hauts gradés, premier dan, deuxième dan, et ensuite, il y a la ceinture rouge et blanche.
Ah, c'est quoi ça, la ceinture rouge et blanche?
Sixième dan.
Sixième dan? Et il n'y a rien de plus haut?
Ah, si, il y a ensuite neuvième dan, ceinture rouge.
Ah oui. Je ne savais pas qu'il y a autant de couleurs dans le judo.
Oui, tout à fait.
Teddy Riner, il est quoi, lui? Il est ceinture quoi?
Teddy Riner, il est sixième dan, et ceinture rouge et blanche.
Bah, c'est le summum, c'est le sommet.
Oui,
j'aime bien ces couleurs, je crois que je vais les porter aujourd'hui avec ma petite chemise.
Vous êtes ceinture noire du retard, Christophe.
Il est 13h12, c'est le temps de faire la pub, c'est ça? Et après, exactement. On parle de masque, évidemment, obligatoire dans beaucoup de villes de France. Merci en tout cas pour vos témoignages, Geoffrey et Raymond. C'est Grégory Caranoni qui me rappelle que je suis un petit peu en retard et que si on veut chanter avant 13h30 pour la chanson de l'été, il faut qu'on se dépêche, c'est ça? Appelez-nous pour votre chanson, vos meilleurs souvenirs d'été en chanson juste avant 13h30.
Christophe Paco. Nous donnerons la parole, Christophe Paco sur RTL.
Après l'émotion du judo, les interrogations autour du climat et cette question sur RTL.fr aujourd'hui qui est notre question du jour. Dérèglement climatique, la prise de conscience est-elle suffisante? Entendu aujourd'hui qu'en Polynésie française, Emmanuel Macron avait annoncé l'arrivée de, c'est vrai, d'abris un petit peu en hauteur, évidemment, pour éviter ce qui s'est passé il y a 38 ans là-bas sur ce petit atoll de Maini et ce typhon dévastateur où les gens se cachaient hein, véritablement à l'intérieur de réfrigérateurs pour pas être emportés. Voilà, on faisait attention à tout tellement c'était terrible déjà en 1983. Aujourd'hui, est-ce que la prise de conscience est suffisante? Qu'en pensez-vous? On est avec François tout d'abord sur le 32-10. Bonjour François.
Bonjour Christophe.
Ça, c'est compliqué hein, cette question parce qu'on a tellement envie de faire de choses. Tout à l'heure, on était avec un spécialiste, avec Hervé Le Treut. On avait l'impression qu'on est toujours sur la défensive, qu'on va mettre, comme dit Emmanuel Macron, des abris, mais qu'on ne fait rien pour couper avant. Mais si on pouvait. Oui, c'est ça. Comment faire?
Vous savez, je vais vous dire, Christophe, je crois qu'il y a un combat à mener pour la planète. Hein. Mmh. Et à mon avis, ça, c'est le combat le plus vital. Hein. Parce qu'à un moment donné, on tire beaucoup sur la corde, je trouve. On n'a pas de leader non plus. Le problème, il est là aussi. Qu'on a comme leader charismatique.
Bah, la dernière, c'est Greta Thunberg, non?
Oui, mais.
Quelque part.
Non, mais ceci dit, je trouve que bon, moi j'ai du respect pour cette personne parce qu'elle a quand même, une pensée. Et moi, je voudrais bien que nos écologistes qui sont plus empreints de grands discours que d'autres choses, ou même de charisme, parce que bon, à mon avis, il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Hein. Donc le problème, il est là, parce que le problème, il est gravissime. C'est pas non plus se dire, oui, mais bon. Non, c'est un problème de conscience. Et puis moi, c'est ce que je disais, je me disais, et là, ça m'inquiète, parce que moi, les voitures, je suis pas contre, hein, bon, les voitures. Mais quand je vois les publicités, on a l'impression qu'il y a une voiture qui sort toutes les trucs. Donc ça, c'est voilà, il y a tout un enchaînement de choses. Alors bon, se réunir, moi je veux bien qu'on se réunisse tous les quatre matins, mais pourquoi le problème il est...
Il faut bien tenter quelque chose, on ne peut pas non plus, voyez, nier le fait qu'il existe, comme le GIEC aujourd'hui qui prépare son rapport pour le 9 août, qui doit être publié le 9 août pour qu'on puisse discuter ensuite, au moins dans une COP26, oui. Qu'on avait si bien fait avec la COP21, ensuite les États-Unis nous ont un peu laissé tomber, hein, quand même, dans
oui,
cette
non, mais ça, oui, non mais je pense qu'il y a des pays qui ne jouent pas le jeu non plus. Hein.
Voilà.
Le problème il est là aussi, il ne faut pas non plus se dire, bon, il y a des pays qui sont quand même des pays émergents et d'autres. Bon, alors le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, ce que j'ai vu cette année au niveau climatique, franchement, c'est sacrément effrayant. Hein.
C'est-à-dire qu'en plus, on est tous marqués par les derniers événements qu'on a pu voir. On est dans les feux de l'Aude pour ce week-end, comme les feux en Sardaigne, en Californie. On sort des inondations en Allemagne ou en Belgique, et ce nombre de morts effrayant. Et on voit que partout, même dans la région niçoise, il n'y a pas si longtemps, dans l'arrière-pays, ça veut dire que partout, il y a ce danger, mais vous le dites, hein, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas simple, hein, ces petites gouttes d'eau qu'on amène, nous, façon colibri, on le disait tout à l'heure.
Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même aussi une chose, il y a tous ces gens qui... La pollution des mers à travers les plastiques, moi, je trouve ça quand même incroyable. Il y a tous ces gens qui sont des pollueurs, certains, en tout cas... Ben, il faut les faire payer, c'est tout. Voilà.
Faire payer. Et il y a une phrase terrible que je lisais tout à l'heure en préparant ce dossier, de Patricia Espinoza, qui est la responsable climat de l'ONU, qui nous dit « Depuis des années, nous avions prévenu que tout cela allait arriver. » Ça me choque toujours, parce que si on a prévenu depuis si longtemps, mais je veux bien. Mais j'ai bien l'impression aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, contre la montée des océans et autres. La science ne permet pas de voir le monde comme on voudrait qu'il soit. Elle montre le monde tel qu'il est. Et elle rajoute, ce n'est pas de la politique, mais de la réalité. Donc quand on parle politique, même tous les deux, vous voyez ce que je veux dire, François?
Oui, c'est sûr que c'est pas...
C'est, la réalité, c'est, elle est tout un chacun. Je crois que chaque personne, chaque individu, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait qu'on doit trier, on sait qu'on doit voilà, limiter nos gaz à effet de serre. Mais quand on doit prendre l'avion, bon, on le prend facilement, l'avion. Quand ça coûte moins cher, en plus, on le prend encore plus. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Non, mais c'est pas facile, de toute façon.
Mais
non, mais... C'est sûr que c'est pas facile, mais je sais pas, enfin, je pense à Pierre Rabhi ou d'autres personnes, tout ça. Bon.
Pierre Rabhi qui a écrit La part du colibri, justement, oui.
Ben oui. Et puis donc, la sobriété était heureuse, donc. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, moi je crois toujours, bon, que ce soit en sport, hein, donc là c'est probant en plus, que ce soit dans d'autres, je pense qu'il y a des gens, il faut... Vous savez, il y a des gens qui sont des locomotives, hein, quelque part,
bien sûr.
Locomotives non polluantes, en tout
non,
cas.
On l'a cru, j'allais dire, pour le grand public, mais oui, beaucoup l'ont cru quand on a Nicolas Hulot qui a tellement fait dans ses émissions de télévision, côté médiatique, parce que c'est important la médiatisation, on le sait, voilà, pour genre d'événements, mais... comme l'a fait Greta Thunberg, on a un post-trophée tous les plus grands de ce monde, où en traversant, plutôt d'aller en avion ou en bateau, elle est partie qu'un tout petit bateau avec, je me souviens, un équipage monégasque pour traverser, vous voyez, je veux dire, entre la France et New York, tout le monde essaye, mais c'est à nous tous, vous avez raison, cette prise de conscience, c'est à nous tous de le faire.
Ça commence déjà le tri, ça commence par les pollutions, donc les canettes, par exemple, aussi. Il y a beaucoup de choses, on commence petit, hein, mais bon...
Voilà, je parle jamais de nous à chaque fois parce que c'est. Mais on montre quand même l'exemple. Par exemple, si vous me voyez sur Internet aujourd'hui, si vous pouvez nous regarder, hein, Grégory, qu'est-ce que j'ai à la main? J'ai pas un verre en plastique. Non,
vous avez une petite bouteille en carton
papier,
recyclé, j'imagine.
Carton recyclé. Bon, voilà.
Ah bon,
voilà. Bah non, mais quand on montre l'exemple, il faut le dire. Hein. Côté vêtements, faut que je m'en occupe aussi. 13h19.
C'est pour ça que je suis dans l'ombre.
Je comprends, Grégory Caranoni. Merci mille fois, hein, pour cette belle prise de conscience, François, ensemble aujourd'hui dans les auditeurs en la parole. Il nous reste 10 minutes. 32-10. 3-2-1-0, j'aimerais bien qu'on parle du masque quand même, qui revient un peu partout à la mode. Hein. Malheureusement, peut-être pour certains ou pas, peut-être, c'est votre avis qu'on attend en tout cas. Ça revient à Bordeaux, ça revient à Montpellier, c'est revenu à La Baule ou encore à Nice. À tout de suite.
Christophe Paco. Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
À partir de demain, jusqu'à la fin de l'été, ou presque, 31 août, Gironde, la Gironde, Bordeaux, sa région, d'Arcachon jusqu'à la frontière espagnole, il va falloir remettre le port du masque évidemment à l'honneur. Remettre le masque, ça vous gêne, ça vous ennuie, vous le comprenez. Janine est avec nous. Bonjour Janine.
Bonjour, c'est Janie.
Oui. C'est Janie. Alors toutes mes excuses.
C'est pas grave.
Je vais les gronder. Vous savez pas, c'est terrible ce que vous me faites. Janie, je vous écoute.
Oui. Janie avec un M. C'est
voilà,
pas grave.
J'ai bien compris.
Moi je trouve que c'est bien parce que malheureusement je trouve qu'on l'a sorti trop tôt et qu'on en paye les pots cassés.
Oui. On avait tellement besoin de cette liberté, on est d'accord là-dessus.
Oh, mais on en a besoin, bien sûr, mais on a besoin de vivre aussi, on a besoin de ne pas être malade. Donc, le port de masque, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collaboratrice qui est adorable.
Ah bon, je la dispute pas alors, d'accord, ok, très bien.
Ah non, elle est adorable, franchement.
D'accord, ça va alors.
Oui, non, je disais que le port du masque, c'est vrai que nous, Français, on est vraiment retors sur ce genre de choses-là, mais on vivrait en Chine, on vivrait au Japon, oui, on le porterait déjà depuis 20 ans.
Vous n'avez pas l'impression qu'on va le porter très longtemps, finalement, ce port du... Oui, ce masque, non? Parti comme c'est parti, quatrième vague. On a l'impression qu'on va le remettre à chaque fois dès qu'on nous autorise à sortir un petit peu. On voit bien que dans les discothèques, c'est compliqué. On ne va pas le garder longtemps. On voit bien. Tout à l'heure, je voyais des images avec les champions olympiques et autres pour garder le masque. C'est très, très compliqué.
Mais bien sûr. Ben justement, regardez, vous parlez de champions olympiques, je parle de judo. C'est sûr que quand on, doit combattre, on prend le kumikata et on attaque. C'est sûr qu'on va combattre avec un masque. C'est absolument infaisable.
Bravo, championne. Mais,
oui,
non, mais vous avez les bons termes.
Ben oui, mais j'étais professeur de judo, donc c'est pour ça que je peux en parler.
D'accord, ben vous devez sourire en plus avec le sacre aujourd'hui olympique de Clarisse Agbeninou, bien sûr.
Ah oui, mais je suis très très fière pour elle.
Donc pour vous, porter le masque, c'est plutôt les jeunes qui devraient faire plus attention. C'est pas uniquement de leur faute, on est d'accord. Mais parce que
les jeunes.
C'est pas que les jeunes, d'accord.
Pour quelle raison toujours focaliser sur les jeunes? On a aussi des personnes qui sont plus âgées, qui veulent pas mettre le masque, qui trouvent des tas de mauvaises excuses pour dire je vais pas porter le masque.
D'accord.
Mais bon, non, malheureusement, ça devient un accessoire qui va être obligatoire pendant quelques temps. Et le temps que cette saleté de maladie soit là, il faut qu'on se protège et qu'on protège les autres.
Bien sûr.
Tout simplement, au même titre que le vaccin devient nécessaire. Après, bon, c'est sûr qu'on a le droit d'être contre.
On a le droit d'être contre. Chacun a sa propre responsabilité, et je comprends, et sa propre philosophie. Avec vous, il y a Claude qui nous appelle de Gironde, justement. C'est intéressant, puisque ça tombe sur vous, cette région. Moi, c'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, certainement, on l'a bien compris. On était avec le maire de La Baule hier, ou encore à Nice, ou à Montpellier. Que pensez-vous de cette mesure, Claude? Bonjour.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, en ce qui concerne le port du masque, moi, je n'ai jamais été contre, au contraire. Je constate que c'est une mesure de précaution, avec... comme toutes les autres mesures barrières, hein. Donc que ce soit les jeunes, les moins jeunes, je pense qu'il faut se préparer à le garder pendant encore de nombreuses années. Moi, je suis encore beaucoup plus pessimiste que l'auditrice précédente. Ce n'est pas quelques temps, c'est quelques années.
J'ai ce sentiment, je ne sais pas pourquoi, qui vient de m'envahir il y a quelques instants quand je vois qu'on repart avec ce masque. On se dit qu'on n'en sortira jamais, qu'on sera comme au Japon ou en Chine, comme me dit si bien Jamy. On va le porter très longtemps.
Tout à fait. D'ailleurs, ça aurait dû même déjà être mis pour les épidémies de grippe, voilà, quelques années. C'est une mesure de précaution indispensable pour la bonne santé de tout le monde. Oui, moi je suis pour ça.
Stéphane, qu'est-ce qu'il en pense? Vous êtes avec Jamy, avec Claude, justement, j'aimerais qu'on termine sur ce sujet avec vous, Stéphane.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous.
Voilà, bah, écoutez, moi je suis professionnel de santé, je suis infirmier. Moi je crois que ce qui nous a mené jusque-là sans trop de difficultés, c'est bien ce port du masque, les gestes barrières et le gel hydroalcoolique. Je veux dire, quand on a cette triade-là, on y arrive. La vaccination, c'est le Graal. Il faut continuer à se vacciner. Mais c'est vraiment cette triptyque-là qui fonctionne le mieux. Et il faut impérativement écouter les professionnels de santé, la haute autorité de santé. C'est pas du blabla. Il faut vraiment qu'on soit tous mobilisés ensemble. C'est un vrai choix de société pour qu'on puisse vaincre cette maladie qui est une véritable saloperie, il faut quand même le dire.
Ah, ça, on est bien d'accord. Hein. On n'est pas encore sorti évidemment de cette spirale, puisqu'on remet le masque un peu partout en France. On a l'impression que d'ici la fin de la semaine, on sera tous masqués partout dans notre pays. Merci Stéphane, merci à Jamy. Merci, super Jamy, bien sûr. Et merci à Claude. Ben oui, je suis obligé de le faire, madame la judocate. Et merci à vous tous. On va terminer en chanson, juste après une courte pause avec la chanson de l'été.
Christophe Paco, les auditeurs. Goulem avec RTL. Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Et on termine, comme le veut la tradition, c'est le chef qui a dit. Oui, c'est toi, Grégory, qui a décrété qu'on mettait une chanson.
Mais on adore cette chanson du jour, cette chanson de l'été.
C'est bien, je trouve ça nous rappelle des souvenirs. Qu'en pense Véronique? Bonjour Véronique.
Bonjour Christophe.
Vous avez une chanson comme ça qui vous a marqué durant l'été?
Oui, le cœur grenadine de Laurent Voulzy en 79.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi.
Bah, c'était l'époque de l'insouciance. Je suis allée en vacances en Bretagne avec des amis. Et puis, on avait des amis dans le Finistère. Et puis, le soir, on sortait en boîte. Et c'était la chanson de l'été, le flot d'été, si on peut dire. Et ça reste un souvenir marquant, quoi. Des flirts, des slows en boîte.
Vous allez chanter?
Pardon?
Vous allez chanter avec moi? non?
Je sais pas trop.
Bon, on peut essayer.
Oui.
Alors, les paroles de Cœur Grenadine, c'était comment au départ?
J'ai laissé dans une mandarine.
Voilà.
Une coquille de bois bleu marine.
Je vous écoute. Non, non, je vous écoute. Prenez votre temps.
Sous le vent tropical, dans un pays sucré.
C'est trop pour moi.
Mais non.
J'ai la voix plus basse que Laurent Voulzy.
J'essaie de vous aider.
Vous n'êtes pas obligé. Hein.
Si, parce qu'il y a la jolie doudou au soleil, là.
Jolie doudou.
Ah, bah oui. J'ai laissé sur une planisphère. Ça existe vraiment une planisphère?
Entre Capricorne et Cancer.
Il doit se tromper, entre Capricorne et Cancer, je crois qu'il y a un problème.
Non,
je, regardez bien, je, vous allez voir. Une fille au corps immobile. Je me rappelle que de certaines phrases, c'est
marrant.
Faudrait ma peau, ta peau toucher.
On attend le refrain? Allez Véronique. Eh oui. Je peux faire la musique, je peux faire le air guitar si vous voulez. Avant de retrouver Eric Jean-Jean, quel beau souvenir, le cœur Grenadine.
Oui.
Oh.
Une vraie émission de musique à suivre.
J'ai le cœur Grenadine. Pas de soleil sur ma peau. Merci mille fois, Véronique, d'avoir été avec nous pour ce beau souvenir qui nous en rappelle tant et tant divers et variés. Souvenir d'été, je vous embrasse très fort. À demain pour RTL Midi. Ce soir, RTL Soir à 18h avec Olivier Bois. N'oubliez pas le rendez-vous olympique. 18h30, 19h, on refait les jeux avec Jean-Michel Rascol et Marie Portolano. 13h30, précise, voici Eric Jean-Jean avec bonus track. Bon après-midi.